Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va?
Tout le monde. Je t'ai dit que j'aimais pas faire ça.
Bonsoir tout seul.
Voilà, exactement. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu à l'émission de la causerie de 22h à 23h. Nous sommes bien présents. Aujourd'hui, dans les studios, nous avons Clara à la technique.
Bonsoir.
Ouh, tu as pas un petit problème de voix, Clara ?
Ça s'entend pas, non.
On va modifier la voix après. Ensuite, nous avons Fab.
Bonsoir.
Bonsoir. Il manque quelqu'un à l'appel.
Bah ouais, Jean-Yves, si tu nous écoutes, bah reste couché.
Voilà, c'est voilà. Ça. On rassure nos téléspectatrices et télé.
Non, auditeurs, auditrices. Le mec, il croit déjà qu'il est sur TF1 ou chez Hanouna. Que dalle. Là, t'es à la causerie, c'est radio associative, il n'y a pas de caméra, rien quoi.
Oui, c'est
non.
Vrai.
Non, il n'a pas le coronavirus, et heureusement ça. D'ailleurs, parce que ce serait pas drôle du tout, non.
C'est pour ça qu'on peut en rigoler d'ailleurs.
Le dos bloqué, sinon on ne se marrerait pas. Voilà.
Alors aujourd'hui également, nous avons un invité surprise. Hein. Bonsoir, Mounir.
Bonsoir.
Bienvenue à la causerie.
Merci, c'est gentil.
Un invité surprise.
Surprise, exactement.
Et MK qui nous a fait une ouverture tout en MK.
Toujours détendu.
Voilà. On le sent très à l'aise. Et donc, du coup, comment on nous joint ?
Ah, c'était la question que je voulais poser. Que tu voulais bon, bah, du coup, ça tombe sur moi. Et bah, c'est très simple. Hein. Vous pouvez nous envoyer des petits messages d'amour ou de haine ou tout à fait neutre hein, pour dire que vous êtes là par mail à la causerie canu. @gmail.com, hein, la causerie canu en tout attaché et minuscule. Ouais. Également, vous pouvez nous retrouver sur le blog de Radio Canu en tapant blogs au pluriel .radiocanu.org/la causerie.
Tu fais beaucoup rire, Mounir.
Je sais.
On dirait qu'il récite une poésie.
Mais c'est un peu ça.
Vous pouvez également nous retrouver sur des réseaux sociaux.
Oui, bon, Fabien, bref, Facebook, Deezer, voilà, tout
exactement.
Ça, voilà.
Et prochainement.
Et bientôt Spotify.
Exactement.
Ah, mais maintenant, on est vendu, on s'en fout, on est à fond, quoi.
Ah, bah oui, tant qu'à faire ça.
Bah, pour démarrer l'émission, quand même, juste parce qu'on rigole, et vous savez que dans la causerie, on a bien rigolé. Par contre, on va moins rigoler sur l'idée du coronavirus, quand même, et du Covid-19, qui est la maladie qui donne cette saloperie. Donc, voilà, comme beaucoup de gens vous l'ont déjà dit et beaucoup de gens le disent, bah, prenez soin de vous, hein, protégez les plus faibles et les plus anciens, parce que c'est important, et que oui, ça fait chier qu'on nous confine, tout ça, mais qu'à un moment donné, bah, y a pas 36 000 solutions pour éviter l'épidémie, hein, voilà, on n'en connaît pas beaucoup d'autres, et puis bah, la causerie, hein, en général, on avait une pensée pour tous les gens bah, qui, justement, qu'on oublie dans ces périodes-là, c'est-à-dire bah, les SDF, par exemple, hein, avec qui on n'ouvre aucun espace pour aller se confiner, donc eux, ils peuvent rester dans la rue, a priori, tout va bien, hein, tant qu'ils se regroupent pas plus de 10. Non, mais voilà. Non, mais c'est juste surréaliste, quoi. Voilà. On pense aussi aux gens qui sont dans les prisons, parce qu'on sait que toutes les prisons en France ben, sont aujourd'hui surchargées, comme on dit, pour pas dire qu'on met 3 à 4 personnes là où il devrait y avoir qu'une. Vous essayerez de vous confiner à 1 mètre les uns des autres quand vous avez 9 mètres carrés hein, pour à 3. Voilà. Ça devient compliqué.
Bah là, ça va très vite, hein, du coup.
La
propagation.
C'est ça, et en fait, c'est tout un tas de gens comme ça qu'on met un peu un petit peu à l'as, comme ça qu'on met sous le tapis, dont on on veut pas parler. Et puis bah on a aussi une pensée pour tous les soignants et soignantes, parce que bah aujourd'hui il y a des gens, moi je suis très fan de films de super-héros, mais les vrais super-héros, il y en a dans la vie. Il y a des gens voilà qui aujourd'hui bah soignent et sont là, sont présents, et faut pas semblant, et moi je les salue parce que j'ai vu le témoignage, enfin j'ai entendu par exemple le témoignage d'une soignante tout à l'heure de qui est sur les hôpitaux de Lyon, qui en est à sa 60e heure en quelques jours.
Ah oui, mais d'affilée, dire, quoi.
Voilà, d'affilée. Ouais, et elle ne s'arrête pas parce qu'en fait, elle ne peut pas, parce qu'en fait, personne ne peut la remplacer. Et donc, je lui dis, et elle disait juste, bah, de toute façon, il faut que je sois là. Parce qu'il n'y a pas le choix. Il y a des gens qui sont branchés. Et donc,
mais il va y avoir des renforts à partir de lundi. C'est des stages qui démarrent pour les étudiants infirmiers qui seront réquisitionnés. Alors, pas que infirmiers, hein, tous les étudiants en stage dans le médical et dans le. Ouais. Du coup, qui seront réquisitionnés, bien sûr, hein, pour la bonne cause.
Mais il faut y aller parce que c'est franchement. Le blanc, voilà. Mais en tout cas, chapeau bas. Et je vous invite à aller voir les vidéos, d'ailleurs, qui viennent d'Espagne ou d'Italie, où les gens se mettent à leur fenêtre. Parce que quand on va être confiné, on va être confiné. Du coup, c'est le moment.
Ça sent partout sur les réseaux.
Bah oui, il y a ceux qui jouent de la musique, et puis il y a ceux qui, hier soir, à 22h, et je proposerais même, j'aurais l'envie de dire aux gens, bah tiens, et demain, si on faisait ça demain soir à 22h, on se met tous sur notre balcon et on applaudit.
Flash mob à la fenêtre.
Ouais, et on applaudit, en fait, c'était en l'honneur des gens qui, justement, sont soignants et qui sont là. Alors, ça allait des pompiers aux gens qui soignaient, aux gens des hôpitaux, et les gens ont juste applaudi pour les remercier. Et ben, je trouve que c'est juste un geste magnifique. Et des fois, ça fait du bien de se dire que l'humanité n'est pas toujours en train de râler.
Ouais, c'est une certaine reconnaissance. Et c'est clair. Ça fait du baume au cœur, comme on dit. Hein.
Ouais.
Et puis, en rappelons-le, bien sûr, hein, toutes ces mesures de précaution. Hein,
Bah, c'est pas pour rigoler. Ah oui, voilà, tu voulais les donner. Faut que tu parles plus fort, elle dit, Clara.
Oui. Lève ton micro.
De pas être trop près du micro. voilà, au micro.
Oriente-le correctement, alors.
On a tout désinfecté ce soir. Voilà. Vraiment, en plus, c'est vrai. Donc, voilà.
Oui. C'est mieux comme ça.
Ouais, tu disais les mesures toutes
bêtes. Oui, il faut bien respecter les lavages de mains, bien sûr. C'est des choses simples et faciles à faire. Et puis, à éviter, bien sûr, tout rassemblement. Les lavages de mains qui dure au minimum 20 secondes. Si vous avez si vous n'avez pas de solution hydroalcoolique, les lavages de mains au savon suffisent aussi, hein, bien sûr.
Il faut rappeler que c'est un coronavirus qui ne. Donc, comme tous les coronavirus, y compris le virus du rhume, hein, en fait, il ne supporte pas le savon. Donc, en fait, ça marche vraiment. C'est-à-dire, vous le mettez dans le savon, il fait. Ah et oui, ça reste la causerie. On n'est pas allô docteur. Donc, on peut rigoler quand même. Voilà. Non, mais c'est vrai, mais tu as raison, ça marche, ça fonctionne. Et on peut rappeler d'ailleurs que c'est comme ça, et ça peut paraître étonnant, mais que l'épidémie d'Ebola a été arrêtée. C'est simplement en disant aux gens,
Avec des mesures d'hygiène,
puis surtout vous faites pas la bise, vous checkez pas, enfin checkez le coude plutôt que de checker la main.
C'est ça.
Et ça marche quoi en fait.
Non, ça paraît ridicule. C'est vrai que j'entends partout effectivement les gens qui rigolent, qu'on va trop loin avec ces mesures, comme checker avec le coude ou ne plus se rassembler parce qu'il faut pas avoir peur et qu'on dermatise. Mais sans loin d'être tombé dans la psychose, il faut quand même être sérieux et prendre ça au sérieux. Et puis ceux qui ne veulent plus se rassembler parce que les restaurants et les bars sont fermés, ne le faites pas à la maison non plus.
Bah oui, évidemment.
Voilà.
Et puis respecter les gens qui n'ont pas envie. C'est-à-dire que je dis arrêtez de forcer les gens. Moi, j'ai vu des choses qui m'ont un peu choqué. Des gens qui s'amusaient, c'est devenu un peu une mode sur les réseaux sociaux notamment, qui foncent sur des gens qui portent des masques en leur disant ah mais pourquoi t'as peur machin et tout. C'est complètement con en fait. Je veux dire, respectez-vous.
Trop de sécurité.
Puis respectez-vous les uns les autres. Je veux dire, les gens ont le droit de se dire j'ai envie de mettre un masque, c'est pas grave. Hein, voilà.
Surtout
moi, ça me donne un petit côté Walking Dead et c'est sympa.
Il y a peu
de monde dans les rues et voilà.
On oublie vite que c'est que même si je parle pour moi parce que effectivement
parce que toi t'es jeune.
Je suis sur la tranche d'âge entre guillemets qui pourrait se croire invulnérable. Non, je parle pour au nom de l'équipe.
Mais
on peut être porteur sain et puis transmettre.
Et
puis des personnes très fragiles.
Pas s'en rendre compte et qu'au final.
Il faut être vigilant sur ça. D'ailleurs, à ce propos, écoutez.
Voilà, on a un retardataire qui arrive. Voilà, donc du coup, prenez soin de vous.
Voilà, c'est ça le maître mot. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, avant d'attaquer nos sujets, d'ailleurs, qui peut être de très bons sujets pour s'occuper pendant ce confinement à la maison.
Ouais.
Avant d'attaquer nos sujets, on va passer une musique.
Petite musique.
Et vous êtes bien à nouveau sur Radio Canu à la causerie sur 102.2. Nous venons d'écouter The Bambi Molester, avec le titre Malaguena. Alors, juste pour reprendre avant de reprendre le sujet, on a eu une petite intrusion. Hein.
Comme ça, là. Un autre qui est arrivé.
Un autre.
Comme ça.
Un retardataire pour lequel il va nous dire bonsoir.
Bonsoir.
Ah, il fait ça bien.
Hein. Bah oui, tout à fait. Et voilà. C'est Joe qui est parmi nous.
Voilà. Bonsoir à tous les auditeurs. Ah.
Et sur le micro.
Et oublie pas les auditrices quand même.
Et auditrices.
Voilà.
Normalement, voilà. Quand il y a le masculin, c'est lui qui l'emporte.
Non, mais alors ça, c'est un trop long débat pour qu'on le lance maintenant.
Lance pas Clara surtout.
Ce Clara va pas être d'accord. Après, ça va s'engueuler. Elle va couper les micros. On va plus pouvoir faire d'émission. C'est pas bon. Voilà.
Voilà. On rigole à la causerie. Hein.
Bah, heureusement. Et donc, tu voulais. Alors, MK, toi, t'avais une bonne idée. Tu t'es dit, alors les gens vont être confinés chez eux. Ce qui est quand même un truc qui va être pas très drôle. Mais tu as envie de leur conseiller une série à regarder.
Exactement.
Tu vas les occuper un petit peu.
Et puis une série, je pense, qu'ils vont adorer. Alors, parce que moi, j'ai adoré. Alors, je suis pas.
Ils vont aimer parce que j'ai aimé. Là, c'est posé, hein, comme Zoka.
Oui, je suis un peu prétentieux, j'avoue. Donc là, nous venons d'écouter, comme je disais, The Bambi Molester avec le titre Malaguena. Et pour vous donner en mille, c'est le générique de la série que j'ai regardée, que j'ai découvert et dont je vais parler ce soir. Donc, c'est une série que j'ai découvert très récemment, hein. On va dire hier soir, parce que j'avais pas grand chose à faire, si ce n'est regarder la télé en boucle. Hein. Donc j'ai eu le plaisir de voir Arde Madrid, c'est le titre de cette série espagnole, qui se trouve en replay sur France TV, et disponible donc jusqu'en août 2021. Donc j'espère que d'ici là, on aura le droit de sortir. Mais bon, vous pouvez la voir.
Alors, on peut se le souhaiter quand même.
Oui.
Sinon, on est vraiment dans la merde.
Oui, vous pouvez la voir en plusieurs fois d'ailleurs. Donc c'est une série espagnole qui est disponible sur France TV, donc réalisée par Ana R. Costa, donc c'est une scénariste, créatrice et réalisatrice, et Paco Leo, qui est acteur, un grand acteur espagnol, hein, qui a tourné dans pas mal de films, dans certains avec ceux de Almodovar, pardon, qui est également réalisateur et scénariste. Et dans cette série, donc, il est réalisateur avec Ana R. Costa et il est acteur aussi dedans, dans cette série.
Donc, c'est pratique quand tu veux faire un truc où tu te sens bien, tu réalises et tu joues.
Voilà, exactement. Bien. Moi, il contrôle.
Non, mais alors, par contre, ça veut dire que c'est lui qui a le projet, c'est ça qui est intéressant.
Il a quand même bien ficelé le projet.
Les deux, en fait.
Donc, cette série, comme je disais, donc, moi, je la trouve géniale. Hein. On a des génériques aux géniaux, aux musiques, flamenco, à la Tarantino, vraiment, on ne s'ennuie pas une seconde. Et les acteurs sont parfaits et très justes. C'est filmé en noir et blanc. Ça rend parfaitement l'ambiance de l'époque. Il faut dire que ça s'est passé donc dans l'époque franquiste des années 50. Alors c'est un choix qui a été justifié donc par le réalisateur Paco León, car toutes les images d'archives avec lesquelles il s'est inspiré étaient en noir et blanc, et il fallait rendre la série crédible. Ouais. L'inverse, en couleur, aurait ressemblé plutôt à un épisode de Velvet. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série espagnole.
C'est pas très gentil, ça, la comparaison. C'est une télénovela, quand même, Velvet.
Voilà,
quoi.
Exactement. Si on avait laissé ça en couleur, ça aurait été comme une série. Donc, un peu à la Desperate Housewives. Alors qu'en noir et blanc, cela ressemble plus à du Fellini, comme dit si bien Paco León. À tes souhaits. En plus d'être très drôle, Arde Madrid est une série féministe, et oui. Et c'est assumé et revendiqué par Paco León et Ana R. Costa, qui revendiquent la liberté sexuelle de la femme et de son émancipation face aux hommes. Ensuite, le point de vue de la série est basé sur la vision des domestiques, car Paco León pense que derrière chaque moment historique, il y a quelqu'un qui fait des lits.
Mais c'est vrai,
oui. Bah oui, tout à fait. Hein.
Ah, alors, il ne faut pas parler pendant le micro. c'est pas la maison.
C'est ce qui donne de la force à la série. Donc on ne suit pas la diva, mais bien des personnes du service interprétées par Ina Cuesta, qui interprète donc Anna Marie, Ana Castillo, qui interprète Pilar, et également Paco León dans le rôle de Manolo. On découvre également la vie de débauche que menait Ava Gardner à Madrid sous la dictature de Franco.
Alors, Ava Gardner, elle est connue hein, quand même, la beauté d'Ava Gardner, tout ça.
C'est une grande star hollywoodienne.
Ouais, et surtout, elle a toujours emmerdé le monde, c'est-à-dire que partout où elle est passée, mais c'est dans le bon sens du terme que j'ai emmerdé le monde, c'est une femme libre, libérée, qui ne s'est pas pliée au code du tout du grand Hollywood, tout ça. Et c'est vrai qu'elle elle a été expulsée d'Hollywood.
Oui, parce que ce que j'allais dire, parce que les grands manias d'Hollywood l'ont expulsée, lui ont rompu ses contrats pour certains. C'est ça, donc oui. Vraiment, elle a fait comme elle a voulu, et puis tant mieux, j'allais dire. Bah ouais. Alors, comme synopsis, je peux vous dire ça. Donc, en 1955, Ava Gardner, hein, qui est donc interprétée par Debbie Mazar, c'est la diva hollywoodienne du moment qui s'installe à Madrid. Son comportement libéré et sa personnalité sulfureuse dénotent avec les mœurs de l'époque. Le régime franquiste la soupçonne de sympathie communiste et la place sous surveillance. L'espion choisi est Anna Marie, donc interprétée par Ina Cuesta, une femme sévère et démodée en charge de l'éducation des femmes, chargée d'enseigner aux jeunes femmes les tâches ménagères et les comportements décents à adopter vis-à-vis des hommes. Elle leur apprend à bien obéir à leur mari, leur père, leur frère, en gros à tous les hommes. Par amour de sa patrie, elle accepte de s'infiltrer en tant qu'employée de maison et de noter tout ce qui lui paraît suspect. Mais en vrai, elle n'est pas préparée à être confrontée à la vie libérée de la star volcanique et sensuelle aux multiples amants. Pour sa couverture, on lui impose un mari factice, Manolo, interprété par Paco Leone. Embauché comme chauffeur privé pour Ava Gardner, c'est surtout un escroc notoire qui ignore tout de sa mission. Toutes ses certitudes vont être ébranlées au contact de la star, femme libérée et décomplexée. Dans cette maison, elle va découvrir une vie dont elle n'ignorait tout. Arde Madrid donc est une comédie dramatique en 8 épisodes qui avait été présentée lors du festival Series Mania en mars 2019. Dans cette série espagnole, les deux réalisateurs prennent quelques libertés pour raconter le séjour de la star dans la capitale espagnole, donc à la fin des années 50. Je rappelle à ce titre que cet épisode où Ava Gardner séjourne à Madrid où elle se fait espionner est véridique. Hein, donc elle venait d'ailleurs pour un tournage du film Les 55 jours de Pékin. Et à ce moment-là, l'Espagne est encore soumise au régime d'extrême droite du général Franco.
Elle va l'être jusqu'en 75, hein, donc...
Ah oui, ça a duré bien longtemps.
Hein.
Ça a duré bien longtemps, malheureusement. Qui, rappelons-le, sévit donc la stricte morale catholique et la politique isolationniste. Donc, qui est Ava Gardner. Donc, grande actrice de l'époque, hein, comme on disait tout à l'heure, qui enchaîne les films, les maris, les voyages et les scandales. Scandale aux yeux de qui ? C'est juste une femme qui jouit de la vie au même titre que les hommes. Mais bah, ça, on lui reproche.
Bah oui, de toute façon, on lui avait même reproché d'être bloquée en Espagne, parce qu'elle s'est plus retrouvée bloquée en Espagne que réellement venue s'installer. C'est-à-dire que c'était après.
En fait, elle a fui, tout simplement.
En fait, elle fuyait et en fait, elle s'est retrouvée là. On lui a annulé son passeport américain, donc du coup, voilà. Et elle s'est retrouvée un peu, bah voilà, je suis coincée là où je tournais mon dernier film, quoi. Parce que. Et c'est pour ça qu'elle avait toujours refusé, d'ailleurs, de se soumettre au régime franquiste. Et c'est pour ça qu'on la soupçonnait d'être une ville communiste.
Mais c'est voilà. Pour ça, et c'est aussi d'autant plus que c'est une rebelle. Elle a adoré Madrid, hein. Pour elle, oui, c'est une ville de fête, comme elle le disait. Ouais. Et donc, elle était notamment l'amie de Ernest Hemingway, qui a combattu avec les Républicains durant la guerre d'Espagne.
Elle n'avait pas les amis qu'il fallait avoir.
Oui, voilà, c'est pour ça. Donc, elle s'est vraiment installée, on va dire, au mauvais moment. Mais c'est bien, c'est une rebelle. Donc, vous me direz que, voilà c'est à la... Ouh là, je retrouve plus mes mots, dis donc.
Mais du coup, la série, elle tourne autour d'Ava Gardner ou elle tourne
non, justement.
Ou c'est un prétexte pour parler de ce qu'il y a autour d'elle, en fait.
C'est un prétexte. Donc là, je termine juste rapidement sur elle, parce que du coup, c'est le moteur de cette série, mais ça va pas justement axer sur sa vie dans la série. Là, c'est juste pour vous faire un topo de cette personnalité qui est le moteur, en fait, parce que si on parle pas d'Ava Gardner, on peut pas parler des employés domestiques qui travaillent avec elle, en fait, tout simplement. Et donc, en face, on a Anna Marie, en fait, son employée de maison. Et ça, c'est le choc des cultures. C'est une vieille fille, morose et austère. Hein. Anna Marie a tout d'une fille cato-réac et coincée. Et Ava Gardner, une femme divorcée, athée et star volcanique et sensuelle, et que le franquisme qualifie de indécente. C'est cette confrontation qui est le moteur de l'histoire quand Anna Marie et une autre femme, hein, Pilar, donc interprétée par Anna Castillo, qui est aussi une femme coincée, cato-réac aussi, mais qui n'est pas espionne pour le coup, c'est une femme de chambre en fait.
Bah alors, Anna Castillo, elle fait que des rôles comme ça. Elle a une tête à être la femme austère. Je pense que dans la vie, elle n'est pas du tout, mais.
C'est la force des actrices,
c'est ça aussi, le truc. Non, mais elle a la tête, quand elle enfile une robe noire, c'est bon, voilà.
C'est pour ça que j'ai trouvé vraiment le jeu des acteurs et des actrices, mais vraiment formidable du coup. Et ces deux personnes, hein, Anna Marie et Pilar découvrent la vie sous une autre vision et ça remet en question leur certitude. Donc cette série est un vrai spectacle, tout s'enchaîne et s'entremêle entre les différents protagonistes, hein, chacun d'eux tenant un rôle différent et important. Il faut savoir aussi ceci, que dans la vraie vie, pour Ava Gardner, donc, Madrid est une fête permanente, alcoolisée et érotisée, un mélange de The Party, Diamonds sur le canapé, Gatsby le magnifique... Ava trouve dans ses soirées dantesques un moyen de s'échapper à sa solitude, une consolation à son divorce avec Sinatra. Tout y est démesuré et débridé. On boit, on danse nu sur le piano, on chante des chansons gitanes, tandis qu'une chèvre déambule dans le salon sous le regard de la Guardia Civile. Hein. Appelé par Juan Perón, ex-président argentin et voisin au bord de la crise de nerfs de Ava Gardner, en fait. Effectivement, donc elle, quand elle est venue s'installer à Madrid, elle était voisine de cet ex-président argentin, effectivement. C'était qui était un ami très proche de Franco.
Hein. C'était pas un mec très sympa, hein, non. Perón, voilà. Peu réac lui aussi.
Ah bah complètement, oui. Il a trouvé bien un asile en Espagne, à Madrid, au bon moment, et c'est pas dit, voilà. Pourtant, Art de Madrid n'est pas une série sur Ava Gardner. C'est la succession d'anecdotes, hein, certaines réelles, certaines fictives, hein, sert de prétexte pour raconter l'histoire de ses domestiques. Magnifiquement tournée en noir et blanc, la série est un pur mélange de drama et de comédie qui tient presque de la succession de scénettes. On croirait voir du théâtre filmé à la Almodovar.
Bah, c'est pas étonnant en même temps, parce que quand tu regardes le parcours de l'acteur-réalisateur, il a beaucoup tourné avec les gens qui sont issus de la Movida, qui était la nouvelle façon de filmer en Espagne. Et au final, bah oui, c'est vraiment une nouvelle façon de filmer. C'est-à-dire, on est dans le burlesque par moment, on met du drame dans le burlesque. Tout se mélange et c'est assez génial, en fait, en général. Ouais.
Effectivement, il y a un petit côté de Almodovar aussi, du Tarantino, hein, comme je disais tout à l'heure. Et donc, donc d'un côté, pardon, on a un récit, donc le récit mélange les registres, hein, on a du second degré, du trait d'esprit, des jeux de mots, hein, du décalage, situation rocambolesque, de l'humour trivial, et ça ironise sur le sexe, hein, la fracture sociale, le régime franquiste et la répression. Et de l'autre côté, il dessine une Espagne aussi qui opprime les femmes, la place au service de leur futur mari, les coupe de toute forme de désir, de tout élan émotionnel et sexuel. Le tableau est aussi subtil qu'ambigu, empreint à la fois d'ironie et de nostalgie de sa mère. Donc c'est sur ces mots, hein, du coup, que je vous invite vivement pendant ces prochains jours et semaines, si vous voulez vous trouver une activité à la télé, c'est bien de regarder sur France TV en replay cette série qui s'appelle Arde Madrid, qui signifie d'ailleurs Madrid brûle.
Ben oui, voilà. Et moi j'ai une question, c'est, elle est en VO ? On peut l'avoir
en
VO ?
Oui, alors elle est en VO, alors avec France TV on peut choisir. Oui. Ah oui, ah non, alors c'est magnifique.
C'est de le voir en VO, parce que le parler madrilin, c'est un espagnol qui est très particulier et qui se joue aussi, justement. Il y a une différence de tonalité entre les classes sociales Madrid, et c'est très marqué. Donc, ce serait dommage de le gommer par un côté.
Alors, on a la possibilité, bien sûr, c'est du sous-titrage. Ouais, oui. Et puis, on peut choisir avec le replay de le choisir en langue. Mais bien sûr, qu'on vous le conseille en VO. Hein,
bah,
bien sûr.
Bah oui.
Donc, voilà, c'était sur ces mots que je vous disais. Donc,
adieu. Bon, moi, salut.
Non. Et de regarder cette série, et voilà, et puis de nous écrire éventuellement pour nous donner votre point de vue. Hein.
Bah ouais, tu veux des retours, en fait. Et écrivez-vous, les gens, pour te faire des retours.
Ah non.
Allez, la causerie cadu@gmail.com pour nous dire ce que vous avez pensé de. Bah, le nom de la série maintenant.
Art de Madrid. Voilà. Je me disais, c'est un piège. Le blog aussi. Hein.
Ouais, sur le blog, évidemment.
Voilà.
Voilà.
Et bien, écoutez, on passe à la musique.
Allez.
La sauce, si la sale. Lance la source. La sauce, le aussi, elle a ce mot. Elle souligne ce. S-I-C-O, si l'as, O, I, ce, l'on, ce, l'asso, si l'essa, l'o, l'asso, le soli, l'es, l'on, ce, le, o, si l'asso, si l'asso, si l'essa, l'o, lance l'asso, ce, l'asso, ce, le, o, si l'asso, so, et le soli, l'asso, si l'essa, l'o, l'asso, le soli.
Yeah. vous êtes bien de retour sur la causerie sur le 102.2 et nous venons d'écouter Camille avec le titre « L'assaut ».
Ah, c'est ça ?
Oui, exactement.
Elle ne le dit pas suffisamment dans le titre.
Tu trouves ? On enchaîne sur ton sujet, Fabien.
Ouais, c'est ça.
Une autre occupation également ?
Oui, je me suis dit, tiens, après une série, un peu de lecture.
Exactement. Hein,
voilà. Parce que c'est bien aussi d'ouvrir des livres. Alors, même si on apprend que les bibliothèques et les librairies ne sont donc a priori pas importantes, vu qu'on les ferme. Mais
voilà. Mais il y a tellement de rassemblements, faut dire.
Voilà. Non, en fait, moi, je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle Apicratie. Alors voilà.
Est-ce que tu le prononces bien ?
Pas du tout.
C'est happy comme voilà, happiness comme, et voilà. Crassi comme
démocratie.
Sauf sans le démo.
Mais sans le démo. Voilà. Et donc c'est de Eva Ilius et de Edgar Cabana, oui pardon. Et c'est aux éditions Premier Parallèle. Voilà, si vous le cherchez, c'est pas trop dur à trouver. Alors pourquoi ce happy crassi ? faut aspirer le H, c'est ça ?
Mais oui, parce que happy. Quand tu m'en as parlé tout à l'heure, t'as dit happy crassi. Ben bah, oui.
Ça va, je suis nul en anglais. Bon, c'est bon. Parce que tu rends des statements. en fait, c'est un livre qui parle de ce qu'on appelle la dictature du bonheur. Alors ça peut paraître comme ça être un mot dur, une dictature du bonheur, le dictature est entre guillemets, mais pour les auteurs, en fait, c'est la période qu'on traverse en ce moment, c'est une période où en fait, eh ben, il faut être heureux. Voilà, la thèse centrale, oui.
C'est pas bien d'être heureux ?
Alors justement, je vais développer, que ça peut être bien, sauf quand on te l'impose.
Oui.
Voilà.
Ah, oui.
Et c'est un peu leur thèse, c'est qu'ils disent, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une injonction au bonheur. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'être malheureux. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'avoir des coups de blues, d'être énervé, d'avoir mis un coup de pied dans une table basse le matin et de trouver ça totalement nul. et d'être énervé toute la journée. Oui, non, on n'a plus le droit. C'est là, tu te mets le coup de pied dans la table basse, tu fais, super, la journée commence bien. voilà. Et en fait, c'est ça. Il y a une vraie injonction, en fait, à être heureux. Pour eux, c'est une façon de contrôler les gens et finalement de contrôler les foules et notamment de contrôler leur façon d'acheter les choses. Voilà, parce qu'ils font un lien en fait avec le capitalisme et le fait que ça emmène les gens vers une forme de consommation qui est toujours une happy consommation, comme ils le disent. Ouais.
Et ça vient d'où, ça ?
Ah ben justement, j'y viens.
Non, mais je suis pressé.
Je veux tout savoir vite. En fait, pour eux, clairement, ça vient de l'idée de détourner les mouvements sociaux. Ils expliquent ça, ils disent en fait ça naît à la fin des années 2000, enfin au début des années 2000, pardon, et ça va s'amplifier les 10 premières années. Et l'idée c'est de dans les entreprises en particulier, d'avoir moins de mouvements sociaux, moins de gens qui réclament des salaires, des choses comme ça, en donnant une illusion de bonheur et de collectif toujours heureux. Et eux par exemple ils disent l'une des entreprises qui a fait ça tout de suite c'est Google. Google, en fait, très vite, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé la happiness. Alors la happiness, je le regarde, j'ai peur. Le happiness moment, c'est-à-dire en fait le moment heureux dans la journée. Et en fait, ça durait généralement entre 1 et 3 heures. Hein. C'était on allait jouer au baby foot, on mangeait des sandwichs en l'herbe, tout ça. Et quand ils ont fait ça, en fait, Google, ils se sont rendu compte que les gens, ils restaient dans l'entreprise, mais surtout, ils n'arrêtaient jamais de travailler. Ce qui fait qu'ils avaient des très très longues journées et qu'en moyenne, chez Google, sur une semaine, vous faisiez entre 60 et 72 heures. Oui. Et en fait, vous étiez tout le temps dans le travail. Vous aviez des amis qui n'étaient issus que du travail. Et au final, vous n'aviez plus de vie sociale. Mais Google, ils y gagnaient. Parce que vous étiez tout le temps en train de bosser, en fait. Parce que le soir, quand vous étiez dans le repas, je suis en train de développer ça. Pour les auteurs, en fait, c'était pensé, c'était pas sorti de nulle part ou du chapeau. Il y avait une volonté d'organiser la société comme ça.
Oui, tu disais là pour Google. Alors là, du coup, cette happy crassi, en fait, ça ne passe pas que par en fait comme un échange avec un psy.
C'est un des aspects.
Un des aspects parce que là, c'est vrai que Google, lui, c'est carrément
l'entreprise.
Un campus quoi de bien-être.
C'est l'entreprise. Et d'ailleurs, le campus, c'est le mot, hein, parce qu'ils disent maintenant, on ne parle plus d'entreprise, on a des campus. Mmh. Et campus, normalement, c'est la fac. Hein.
Oui, c'est cool.
Donc, selon les auteurs, en fait, le fait de relier, on peut relier cette mouvance qui impose le bonheur à la psychologie positive. Et la psychologie positive, elle est née justement dans les années 2000. J'ai pas relevé les noms des auteurs volontairement parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub. Voilà. Mais vous les trouverez dans le livre. Et en fait, il y a 4 auteurs qui ont écrit sur la psychologie positive. Et la psychologie positive, en fait, c'est au cœur de la volonté pour eux de contrôler une forme de repli sur soi. Parce qu'en fait, la psychologie positive, c'est la psychologie de l'ego. C'est-à-dire, on est tout le temps en train de se transformer nous-mêmes. On n'est jamais assez bon. Alors, on n'est jamais assez beau, on n'est jamais assez musclé, on n'est jamais ceci. Et puis, on pense pas de la bonne façon. Et puis, quand on se réveille et qu'on est un peu malheureux, c'est pas normal, il faut être heureux, voilà. Mmh. Et ça a même donné une chanson qui a fait un tube, hein, c'est Angèle qui dit, qui chantait, oui. Le spleen n'est plus à la mode, voilà. Parce qu'elle se moque justement de cette mode où, en fait.
On essaye de se formater, en fait.
On se formate, exactement. On s'enferme dans des modèles qui ne sont pas des modèles humains. Parce que l'être humain, bah, par moment, il s'énerve, il s'agace, des fois, il s'ennuie. Parce que c'est bien de s'ennuyer aussi, des fois, il dit, oh, je m'ennuie, c'est pas grave. Ouais. Donc voilà, mais en fait, ils disent, mais tout ça est interdit. Parce qu'il faut être heureux et toujours en train de positiver, de faire quelque chose de nouveau, de neuf, de fort pour soi. Et en fait, pour eux, ils disent, non seulement c'est très mauvais parce que ça crée une injonction au bonheur, mais en plus, ça a créé une industrie. Un multinational du bonheur. Parce que ça a créé des choses qui n'existaient pas. Par exemple, les coachs personnels. Les coachs personnels n'existaient pas, ils ont débarqué à partir de 2005. Il y a une date précise du premier coach personnel, voilà, qui a démarré et qui s'est appelé comme ça, coach personnel. Avant, on disait que c'était un coach sportif, c'est pour le sport. Il y avait un coach de vie de shopping, voilà. Et d'un coup est apparue une nouvelle notion, le coach personnel. Ouais. Alors donc, c'est le gars qui vous coach votre
qui
personnalité.
Va te motiver,
hein.
Qui va te motiver à avancer, c'est quand même l'idée, à positiver. Quoi.
Et je dis bien le gars parce que c'est ce qu'ils disent dans le livre. C'est étonnant quand même parce que chez les coachs personnels, 97% au moment où ils sont nés étaient des hommes.
D'accord.
Voilà, pour 3% de femmes. Aujourd'hui, ça s'est rééquilibré. Mais c'est donc d'abord une idée plutôt masculine. L'idée d'aller dire on peut... voilà. C'est pas inintéressant. Et donc, et ben, par exemple, les coachs personnels dans le monde, c'est 8 milliards de revenus l'année dernière. Voilà, c'est pas un petit truc. Et ça, c'est que les coachs personnels. Hein. Je vous passe tout le reste, hein, les sites, les livres, tout ce qu'il y a autour. Là, c'est juste le coaching. C'est 8 milliards. Une paille. Hein. Donc, les auteurs, ils vont donc dénoncer toutes les méthodes qui nous sont imposées ou qui s'imposent à nous. Ça va du coach personnel ou dispositif de bien-être en entreprise, hein, la fameuse qualité de vie au travail. Vous avez sûrement entendu parler dans les entreprises où y allez, jusqu'au discours politique positiviste. Alors, un bel exemple de discours positiviste, le coronavirus ne tue que 98% des gens. C'est positif de le présenter comme ça. Oui, bah, ça veut dire qu'il y en a 2% qui meurent et quand on ramène
non,
ça.
Non, là, tu voilà.
Ben,
t'as dit la
même chose.
C'est pour ça que je comprends.
Je me suis trompé. Je l'avais noté à l'envers. Je la refais. C'était le coronavirus ne tue pas 98% des gens.
Voilà.
Et on va pas vous dire le coronavirus tue 2% des gens.
C'est ça.
Ce qui est beaucoup plus vrai. Enfin, ce qui est une réalité et ce qui serait beaucoup plus logique de vous le dire comme ça. Et en fait, ils disent, mais tout ça, ça relève de la psychologie positive où on dit, il faut jamais être négatif. Il faut jamais dire, c'est pas bien. Alors, par exemple, et ils donnent des exemples, hein, dans le monde de l'entreprise, on vous dit plus, ton projet n'est pas bon. On te dit, je vais te challenger sur ton projet parce qu'il faut que tu l'améliores. Voilà. Et en fait, en réalité, on remet une pression permanente et ils disent, mais ça, c'est hyper mauvais parce que en faisant semblant d'être positif, ben, on enferme les gens dans l'idée d'être dans notre
chaîne. Mais c'est pas une certaine façon aussi de contrôler, de maîtriser son personnel. Ah,
c'est typiquement ça. Hein. Et ça, c'est dans le monde de l'entreprise. Et après, il y a dans la vie. Par exemple, ils expliquent, les auteurs, il y a tous les influenceurs.
Ah oui. Ah.
Oh, vous savez, c'est les gens sur les
YouTube.
Et donc, les influenceurs, ils sont tous quasiment dans cette psychologie positive où tout est surmontable tout le temps. Où, t'as un deuil, c'est pas grave, hein, tu vas faire 2 heures de sport, ça va aller mieux. je suis un petit peu. Mais c'est pas loin de ça, en fait, hein, quand on y regarde bien. Et en fait, ils expliquent que ces influenceurs, ils ont non seulement une influence sur les gens influençables, comme on dit, mais ils ont aussi une influence sur la société. Parce que finalement, ils se retrouvent à être un peu de partout. On les retrouve même maintenant à la télévision, ils vont dans des jeux, dans des trucs comme ça, ils sont chroniqueurs, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est quoi leur rôle? Ils n'ont pas un vrai rôle, en réalité, dans la vie. Ils sont influenceurs, donc vous êtes compliqué. Donc leur but, c'est d'influencer les gens vers une façon de penser, de consommer et de voir. Et alors, dans le livre, ils prennent l'exemple, alors moi j'en ai trouvé l'équivalent en France, c'est un gars qui s'appelle Thibaut InShape, je crois que c'est ça, voilà, qui est un type qui en fait explique à tout le monde que s'ils sont pas bien, malades, en surpoids ou autre, c'est de leur faute. Et qu'ils peuvent s'en sortir. Et qu'il n'y a pas de raison que. Et sauf qu'en fait, c'est ce que disent les auteurs, c'est que des gens comme ça aux États-Unis, il y en a plein. Et en fait, ça fait déprimer des tas de gens qui ont des vraies maladies. Et qui, non, en fait, c'est pas de leur faute. Et qui ne peuvent pas s'en sortir. Et qui, du coup, se retrouvent dans un cercle vicieux. On leur dit, mais t'as pas le droit d'être pas bien, en fait. Et en fait, ils donnent cet exemple-là qui est aujourd'hui extrêmement pesant sur les gens, en fait. En général, dans la vie, c'est pas que dans l'entreprise, c'est aussi dans la vie.
Oui, d'accord. Oui, j'allais dire, mais en fait, en gros, là, c'est un nouveau marché qui a démarré en 2005.
Ouais. Dans les années 2000, ouais. Dans les années 2005, c'est les coachs personnels.
Oui, voilà. Mais du coup, en fait, on a créé un besoin qui n'existait pas avant. Et en fait, si je comprends bien, c'est nous-mêmes qui devenons un produit, en fait.
Mais c'est exactement l'idée. C'est-à-dire que tu ne te vis plus comme un être humain, tu te vis comme quelque chose à optimiser. Alors, ce qu'on optimise, c'est le produit, en théorie, hein, c'est pas l'humain.
Le rendre meilleur.
Le rendre meilleur et surtout de rendre plus présentable. Et c'est ça qui est très, très violent, c'est qu'en fait, on est toujours sur la notion de présentabilité, comme ils disent dans le livre. Ils ont fait exprès de faire néologisme très moche. Mais c'est l'idée qu'en fait, on n'est plus dans la présentation, on est dans la présentabilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'à chaque instant de ta vie,
tu sois présentable.
Tu sois présentable. Mais on te chope au saut du lit, tu dois être présentable. C'est vraiment l'idée du truc, quoi. Et ils disent, mais c'est une pression absolue sur les gens, en fait, et qui est permanente et qui est extrêmement violente, au final. Et donc, ils expliquent que, par exemple, dans les entreprises, avec la psychologie positive, on a inventé des nouveaux métiers. Par exemple, happiness manager. J'ai à peu près essayé de le dire bien. Et ben le manager du bonheur, hein, en français, c'est une personne qui a comme rôle de rendre heureux les salariés. Voilà. Ah. Alors,
quelqu'un chagrate.
Alors le vrai problème surtout, c'est que le travail n'a jamais été un endroit où on était censé être tout le temps heureux, parce que c'est chiant d'aller bosser au départ. C'est-à-dire, on n'est pas toujours content de se dire, je vais aller faire mes 8 heures par jour. Voilà. Et même quand on a un métier passion, il y a des jours où on se lève, on se dit, bon, j'ai envie d'y aller là. Vous voyez, il fait gris, il pleut, voilà. Ben non, le happiness manager, il est là en fait pour que tout soit fluidifié dans l'entreprise et que tout se passe merveilleusement bien. Alors généralement, les premières choses qu'ils font, c'est mettre un baby foot. Et là, c'est vrai, et de créer des concours de baby foot. Généralement, après l'été vient le ping pong. Parce que c'est pas
non, mais
bien.
Attends, là où il y avait juste une machine à café avant,
voilà.
Maintenant on trouve
un baby foot,
salle et carrément.
Ouais. C'est ça,
total.
Et puis alors après, ça va plus loin. C'est aussi le fait d'installer des salles de sport dans les entreprises, où en fait du coup les gens ne sortent pas de l'entreprise, ils restent pour faire du sport, puis après on leur met un kiné, un masseur à disposition, des choses comme ça. Et l'idée, c'est de revenir sur le modèle de Google et d'enfermer les gens dans l'entreprise, mais surtout ça crée un phénomène qui est nouveau, et ce que les auteurs soulignent bien, c'est le rejet des gens malheureux. C'est-à-dire que dans l'entreprise, il faut être tout le temps happy maintenant.
Oui, et en
toujours
même temps
joyeux.
On fidélise le salarié à son patron.
Oui, c'est ça, mais en même temps, et en plus, les gens qui sont pas bien, mais ils peuvent être pas bien à cause de leur emploi, hein. Parce que par exemple, ils se retrouvent mis sous pression. Et ben, en fait, on leur dit, mais arrête.
Tu exagères,
on a un baby-foot.
Non, mais franchement, est-ce que tu vas trouver ça ailleurs?
Et ça crée en fait une espèce de truc, et ils disent, qui est complètement surréaliste, où en fait on rentre sur quelque chose qui est un épiphénomène, le fait de pouvoir faire du baby-foot, et qui devient en fait l'idée qu'on est heureux dans la boîte, donc pourquoi est-ce que tu te plains? Et le vrai problème, c'est que les gens se retrouvent de plus en plus écartés du collectif, des gens qui sont autour d'eux, de leurs collègues. Et les auteurs précisent que c'est quand même étonnant de remarquer que les burn-out ont commencé à augmenter quand on a commencé à avoir ce type de management.
D'accord.
Parce qu'en fait, le burn-out, c'est quoi? C'est quand vous n'arrivez plus à parler de votre mal-être, quand vous n'arrivez plus à l'exprimer, que vous le gardez à l'intérieur de vous, et finalement, vous finissez par exploser. Et bien en fait, ils disent, mais oui, parce que dans une société où il faut être tout le temps heureux, ben vous n'allez pas être le vilain petit canard qui va dire, non mais là, j'y arrive plus, c'est trop dur.
T'as pas de raison, en fait, c'est ça.
Et oui, et les autres, tout le monde doit être heureux, tout le monde joue un rôle, en fait, et ça enferme totalement les gens. Et les auteurs disent, il faut pas s'étonner de voir aujourd'hui les burn-out exploser, parce que c'est la façon dont on met de la positivation, comme disent les entreprises, dans l'entreprise. Et qu'en fait, c'est extrêmement déshumanisant. Et donc ils vont plus loin, ils disent dans la vie c'est pareil, l'apparition des réseaux sociaux fait qu'aujourd'hui on a toute une génération, et notamment c'est ce qu'ils disent dans le livre, les 15-25 ans, qui ne font plus jamais une seule photo sans filtre et sans avoir un certain sourire. Et en fait on se ressemble tous, et ils ont fait une étude, il y a une étude qui a été démontrée, on fait tous la même tête sur les photos, c'est pas normal.
Le fameux duck face là.
Bah, par exemple, mais c'est pas normal. À un moment donné, théoriquement, on n'a pas tous la même tête sur les photos, c'est pas vrai. On est tous différents, donc normalement on a tous une tête un peu différente. Mais
oui,
non.
Là, on parle de mimique là.
On fait du mimétisme, c'est ce qu'il dit, c'est qu'en fait on devient tous la même chose. Mais sauf qu'en réalité, c'est le meilleur moyen de tuer sa personnalité. Et le vrai problème, c'est que l'être humain sans personnalité, bah, c'est un être humain vide. Et en fait, ils disent, au nom de l'apicratie, en fait, on se vide totalement de notre personnalité. On refuse d'être nous-mêmes. Et quand on refuse d'être nous-mêmes, bah, on est plus malléable. Et donc, du coup, on va se plier aux modes, on va se plier aux achats, on va se plier à tout ça. Et qu'en fait, bah, ils disent, c'est pas forcément très innocent de dire que c'était pas mal de faire ça et de mettre des filtres partout. Vous voyez,
donc, on voit à qui profite le crime.
Bah, et combien t'as eu de photos de chiens? Enfin, de gens avec des oreilles. Pardon. J'arrivais plus à savoir si c'était humain ou pas. Voilà. Et en fait, je reviens là-dessus. Ils disent, bah, c'est aussi le rôle des influenceurs, vous voyez, qu'on va retrouver aussi dans ce truc-là. Et en fait, ils expliquent, c'est pas un truc nouveau ou c'est pas un complot, c'est pas tout ce qu'ils disent en ligne, c'est une adaptation du capitalisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait créer des marchés, il fallait qu'on crée des choses où les gens dépensent. Bah, la publicité, ça marchait plus vraiment. Bah, on va faire ça plutôt un peu ça. C'est-à-dire la photo, le réseau social, le machin, le fil. Et en fait, ça fonctionne. Et le plus dangereux et le plus grave, c'est ce qu'ils disent, c'est que l'apicratie naît en fait de la psychologie positive, qui elle-même vient des États-Unis et qui est écrite en fait par des gens qui sont extrêmement croyants. Et ce sont en fait des protestants et des évangélistes qui ont écrit des livres. Et du coup, au cœur de leur psychologie positive, il y a le pardon. Il faut tout pardonner pour aller mieux. Et le problème, c'est que le pardon, bah, ça marche pas.
Et bah, ça résout pas tout, en fait.
Ça résout même rien, en fait.
Bah, ouais,
c'est-à-dire, c'est ce qu'il dit, c'est que le pardon n'a jamais rien résolu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nier le droit aux gens qui ont été victimes de quelque chose de se reconnaître en tant que tel et de pouvoir sortir du statut de victime, mais de dire j'ai été victime à un moment de ça. C'est le droit, ça enlève le droit aux gens de dire cette personne m'a tellement blessé que je veux plus jamais la voir. Il n'y a pas de raison, après tout, qu'on a envie de voir quelqu'un qui nous a blessés. Et eux, ils disent non, dans cette psychologie positive, il faut pardonner. Mais le pardon, c'est horrible. Et ils donnent des exemples dans le livre où, par exemple, ces psychologues qui ont écrit ces bouquins conseillent notamment aux victimes de viol de pardonner à leurs violeurs pour se sentir libérés de ce poids. Oui, j'allais en parler. Et vous voyez, c'est un truc un petit peu fou. C'est-à-dire qu'il y a des livres où il y a ça écrit dedans et on les prend comme exemple. Donc là, les auteurs, ils disent, non mais on en est où en fait? Ces quatre guignols qui ont inventé ce truc-là devraient même pas être pris au sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont pas psychologues ou que ce soit. Et ils expliquent que ça marche aussi dans l'entreprise. Vous êtes harcelé dans l'entreprise, il faut pardonner à votre harceleur.
Pour avancer, passer
à autre chose. Bah non, il faut demander justice. Et en fait, ils expliquent que tout ça, ça crée un monde où en fait les gens sont de plus en plus broyés parce qu'en fait, on n'a plus le droit, juste ne serait-ce que d'avoir l'envie de déranger un petit peu en disant ça c'est pas normal. Ouais. Vous voyez, là on dit non, pardonnez, parce que quand vous pardonnez, vous vous libérez d'un poids. Alors il donne un exemple dans le livre qui m'a fait rire, c'est l'exemple du billet. Alors c'est un truc qui est très connu, on vous explique que vous prenez un billet qui fait 100, un billet de 100 euros, voilà, vous le pliez, c'est toujours un billet qui vaut 100 euros, vous le jetez au sol, c'est toujours un billet qui vaut 100 euros, vous le piétinez, il vaut toujours 100 euros, et vous le déchirez un peu, il vaut toujours 100 euros, car malgré tout, il n'a jamais perdu sa valeur.
Oh là là.
Voilà.
D'accord.
C'est beau, hein. Et ben, c'est ça, en fait.
En fait, il faut être piétiné, déchiré, plié.
Et en fait, c'est renvoyé.
C'est pas grave.
Et le pire, c'est que c'est renvoyé les victimes à elles-mêmes et de dire, mais en fait, c'est de votre faute. Ouais, votre valeur, elle a pas disparu. Vous devriez pas être malheureux parce que votre valeur, elle est toujours là. Mais sauf que c'est pas vrai. On a le droit de souffrir. On a le droit de pas être bien. On a le droit d'avoir besoin de gueuler, d'hurler, de demander des comptes, de demander de la justice. Pourquoi d'un seul coup, il faudrait juste se relever et dire, je vaux toujours mes 100 euros. Et je peux continuer comme ça. C'est une horreur absolue. Donc voilà. Donc le livre, moi, je vous le conseille. Il est un petit peu dense. Moi, je pense qu'il pouvait enlever 50 pages. C'était pas grave parce que ils partent parfois dans des digressions un peu larges. Il m'est un peu tombé des mains de temps en temps parce qu'il y a des concepts qui sont un petit peu complexes à comprendre. Il faut relire 2-3 fois. Mais par contre, il est vraiment intéressant pour ce qui véhicule, pour ce qui dénonce et ce qu'il explique un petit peu de ce nouveau capitalisme finalement qui s'est psychologisé pour rentrer au fin fond de nos vies et que ça fait un peu peur quand même. Donc voilà, et surtout ça permet de relativiser tous ces influenceurs et coachs personnels que vous pouvez voir sur plein de vidéos qui vont vous expliquer que le monde il est merveilleux et que si vous le voyez pas bleu, c'est parce qu'en fait vous n'avez pas les bons regards.
Oh là là.
Et voilà.
C'est toi le problème.
Et voilà. Et c'est exactement ça. Et toute l'apicratie, c'est ça, c'est que c'est toi le problème. Ouais. Tu résumes très bien le truc. C'est l'idée que tout vient de toi. Donc ça vaut le coup de s'accrocher. Donc je leur dis, c'est Apicratie de Eva Illouz et de Edgar Cabanas, pardon. Et c'est à Premier Parallèle Édition. Voilà, je vous le conseille vivement.
Et écoute.
Et je veux bien des retours, moi aussi.
Allez, je suis pas seul.
Musique.
Mille Eva, tête de cul, mille Eva, jambes de bois. Dans la cour de l'école, toutes les gamines se foutent de moi. Mais moi, je m'en cogne, je suis moins conne que ça. Elles finiront toutes putes hongroises. À 10 balles la face, si mère l'angoisse. Leur chier à la face, un jour leur vie ratée. Moi, j'ai de la scie dans les idées, un gros cerveau dans une tête moche. J'aurai la gloire et du fric plein les poches. Plus tard, je serai physicienne, j'annoncerai une arme terrible. Et je leur foutrai bien profond dans le flexible.
Est-ce que Eva est-ce qu'on la sonne? Est-ce qu'elle va la guiseau? souffle le gros Albert. Tagué dans tout le campus, comment je suis vénère. Je suis la seule meuf, je dois m'écraser. Tous ces crânes d'œufs, je vais les cramer. Je persévère, j'abandonne pas. Limitard sur mon mémoire, est-ce que je prépare? C'est ton pire cauchemar. On passe sur mathématiques, yes bébé. Hiroshima, Nagasaki, la ma gueule, on verra Tizuski.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Et donc, c'était les Vulves Assassines avec la cumbia de Mileva. Voilà, et c'est vachement bien. Ouais, parce que moi, je dis, il faut remettre en avant la femme d'Einstein qui a fait bien plus que ce qu'on veut bien le laisser croire.
Exactement.
Voilà. Et donc, du coup, on n'a pas de brève parce que tout est fermé.
Ça va être bref, hein, comme on
c'est
dit.
Très bref, les brèves. Donc, voilà, il n'y a rien. En fait, on voulait juste vous dire que nous, ça va être pareil. On sait pas si on sera là la semaine prochaine. On sait pas si on pourra faire l'émission. Voilà.
On maintient, mais bon.
Aimerait être là. Si c'est pas possible, suivez-nous sur internet ou sur notre blog. On mettra la date où on revient. Voilà.
On la connaît.
Hein? Si on la connaît. Enfin, on vous dira si on est là surtout. Voilà.
Oui, voilà, c'est ça,
si on n'est pas là, on n'est pas là. On va faire un truc simple, on n'est pas là cette semaine. Voilà, mais c'était juste pour vous dire ça et que c'est pas grave parce que ça arrive, mais c'est un peu embêtant. Il y a pire dans la vie.
Ah oui, voilà. Bien sûr, oui.
C'était pour faire un peu de psychologie positive. C'était volontaire en plus, hein, c'était pour déconner. Mais on est conscient que ça change la vie et tout, et même pour nous, hein, on adore être à la radio et on adore faire cette émission. Mais voilà, si on peut pas la faire, tant pis, mais voilà, on reviendra encore plus remonté.
C'est ça, exactement, avec des nouveaux sujets, des nouveaux invités.
Et avec des t-shirts, j'ai survécu au coronavirus.
Voilà. Ça sert pas à la radio.
Ah oui, c'est vrai, ça sert à rien à la radio.
Non, mais faudrait
qu'on se mette un...
Oui, mais ça sert à mettre une webcam, un de ces quatre.
Ah bah il y en a qui le font. Tu vas venir avec ta webcam la prochaine fois,
ouais,
MK. On va se marrer.
Ouais.
Donc à la prochaine, on est filmé. Enfin, quand il y a MK, parce que là, quand il y a moi, il n'y a pas filmé.
Non, bah, voilà, ça sera uniquement pour moi. Pour
mes musiques. Oui, tu te filmeras voilà, pendant une heure, on te verra.
C'est ça, vous verrez tout le stress que j'ai en moi.
Eh bien, Mounir et Joe, merci d'être venus.
Mais merci à vous voilà, de nous accueillir. Merci de...
Bah ouais, ouais vous, vouliez voir, cool. vous vouliez voir comment on fait une émission. Bah voilà.
C'est ça.
Ça va, c'est sympa. Hein
non, ouais.
ouais, ça ouais, c'est. Ouais.
Vous reviendrez ?
Oui.
On vous réentendra, je crois, normalement. Oui, oui.
Hein dans pas longtemps.
Voilà.
Ça, on l'a dit d'ailleurs, ça. Si vous voulez venir à la radio, on le dit souvent.
Ouais.
S'ils veulent passer les auditeurs. Ouais,
alors, pas
si
tous et tout en même temps. Hein.
pas pendant cette période, ni même d'ailleurs surtout. Après. Hein,
mais... Non, non, mais voilà. Mais non, mais le mieux, c'est de nous. Mais vraiment, si vous voulez venir, soit vous venez un petit peu avant, et voilà, ou sinon vous envoyez un mail qu'on puisse vous être sûr.
Qu'on s'organise, bien sûr.
S'organise, mais il n'y a pas de souci. Venez voir comment on fait une émission de radio. Nous, ça nous fait plaisir. C'est cool et voilà. C'est sympa en plus.
Ouais.
Et ben,
du coup, pas de brève.
Pas de brève, bah, du coup,
l'émission, le prochain, c'est un point d'interrogation. Et puis, voilà. On se quitte sur une,
ouais,
une
sur
musique.
Et donc, c'est Rafou qu'on avait reçu. Et exactement. Avec le titre Papa. Voilà. Et Clara, merci pour la technique.
Bah, de rien.
Parce que ta voix, elle est trop top à la radio.
Merci, Fab aussi.
Merci, merci à tous. Et à la semaine prochaine, peut-être.
Exact.
Des bisous.
Bisous
salut,
à tous.
Salut.
Ciao.
Ciao.
Papa, papa, écoute-moi. Si tu te reconnais, écoute-moi bien haut. Juste derrière ma voix, il y a ton fardeau, papa. Papa, montre-toi. Papa, ça me gêne de te le demander. Je veux voir que mes gènes ne sont pas inventés, papa. Mon esprit s'en va, tu sais, parfois. J'ai le corps qui doute, enfin j'ai pas la foi, papa. Papa, à l'aide. Ma petite gueule d'enfant triste, je la trouve si laide. Je veux plus jouer les artistes, il me faut ton remède, papa. Papa, sauve-moi. Papa, sauve-moi de ce monde de loups. Apprends-moi à l'aimer, je vais devenir fou. Papa, papa, tu m'énerves. Papa, t'es con, pourquoi tu dis rien? Les mots sont faits pour ça, pourtant tu le sais bien. Papa, papa, quoi? Faudrait avoir des couilles pour pouvoir se parler. Ben ça m'intéresse pas, tu peux te les garder, papa. Papa mon pote, si les hommes sont des bêtes, eh ben c'est de ta faute. Au lieu d'ouvrir tes bras, t'es planqué dans ta grotte. Papa, papa, ouvre-moi. Ouvre-moi ton cœur et console le mien. Ça pourrait peut-être m'aider à me lever ce matin. Papa, papa, écoute, je miaule. Papa, laisse-moi pleurer. Allez, sors de ta piole, papa. Papa, réponds. Ou alors je chanterai partout cette chanson, jusqu'à ce que même les oiseaux connaissent ton nom. Jusqu'à ce que les oiseaux connaissent ton nom. Papa, s'il te plaît, donne-moi de ta force et je te pardonnerai. Il
il me faut ton écorce, et enfin, je saurai.